Oh mon Dieu, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la peine ou la souffrance, je chante, car je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que, Seigneur, ce que tu as promis, tu l'accompliras. Seigneur, quoique dans le désert, quoique le silence m'entoure, quoiqu'il semble que tu sois loin, je chante, je te loue, car je sais que je t'appartiens et que tu veilles sur moi. Et que tu veilles sur moi. Je lève mes mains pour t'honorer. Alors que le visage couvert de larmes, alors que le cœur est tremblant, ce cœur humain est vacillant, mon âme s'élève vers toi, car mon âme est attachée à toi pour toujours. Car mon âme, mon esprit est attaché à toi, Seigneur, et ce corps passera un jour. Mais dans ce corps, tu veux te glorifier pendant le temps que je suis sur cette terre. Et je chante et je te loue, car je sais que tu règnes dans la gloire. Je n'ai pas besoin de te sentir. Je n'ai pas besoin d'avoir une expérience particulière. Seulement, je suis conduit par la foi, car ce que tu as dit, tu le fais. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Combien merveilleux est ce cantique que nous venons de chanter. Je chante, je te loue. Je te loue quelle que soit l'adversité. Je te loue quelle que soit la peine. Je te bénis quelles que soient les paroles des hommes qui peuvent me blesser. Je te bénis quelle que soit la circonstance dans laquelle je me trouve au milieu de ma famille. Je te loue et je te bénis, quoique tu sois silencieux. J'aimerais lire avec vous dans Job au chapitre 23. Job au chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Là, nous voyons un homme qui a connu l'expérience du désert. Job répondit, « Aujourd'hui encore, ma plainte est une révolte. Ma main étouffe mon gémissement. Oh, si je savais où le trouver !» Si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais les propos par lesquels il me répondrait et je pourrais comprendre ce qu'il me dirait. Emploierait-il toute sa force à me faire un procès? Non, mais au moins il ferait attention à moi. Ce serait là un homme droit qui argumenterait avec moi et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Là, nous voyons le combat de l'homme qui passe à travers la souffrance et la peine, le combat de celui qui se trouve dans le désert, comme dans un désert, plus rien autour de lui. Il a tout perdu, il n'a plus rien, et la maladie s'est attachée à sa chair. Et encore, il sonde son âme et il pense, « Seigneur, qu'ai-je fait pour avoir une telle punition? Aujourd'hui encore, ma plainte est une révolte. Je me révolte au fond de moi-même. Je ne puis voir aucune faute ou aucun péché que j'ai pu faire pour l'offenser. Pourquoi alors me punirait-il de la sorte? Oh, si je savais où le trouver !» Si je savais où le trouver, si je pouvais me tenir devant lui, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, tout serait différent. J'exposerais devant lui mon droit, oui, Job, tu as encore des choses à apprendre. Et si tu passes à travers la souffrance et la peine, ce n'est pas parce que ton Dieu t'a oublié, certes non, mais au milieu de ton désespoir, tu as quand même gardé cette foi vivante, car dans le fond de ton cœur, tu dis, il connaît, il sait où je suis. Il connaît ma situation actuelle. Voilà. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sais que j'en sortirai pur comme l'or. Il n'y a pas un oubli complet de la grâce de Dieu de la part de Job. En lui, il n'y a pas un désespoir qui mène à la mort, si je puis dire. Un désespoir qui est un désespoir qu'on considère comme étant final et pour lequel il n'y a plus d'espoir. Non, il y a un désespoir temporel, oui, certes, car je voudrais lui parler et je ne le vois pas. Je voudrais défendre ma cause, mais je ne sais où le trouver. Voilà. Lorsque je lui parle, il ne répond pas. Je suis là comme dans un désert, portant ma douleur et ma souffrance. Que vais-je faire? Mais je sais que je lui appartiens. Voilà. Je sais que je lui appartiens. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Voilà le cri de l'espoir de l'homme qui connaît le Dieu vivant, de l'homme qui l'a rencontré et qui a pris la décision de le servir et qui l'a servi en vérité, avec un cœur droit, un cœur juste, un cœur saint, qui s'est efforcé à obéir à ses commandements. L'espoir est dans le fond de son cœur. Alors que tout s'écroule, il n'a pas perdu espoir. Il connaît où je suis. Il connaît ma situation. Il sait le dilemme dans lequel je me trouve. Il voit le brisement de mon cœur, de ceux qui m'ont abandonné, même ceux de mon propre sang et ceux de ma propre famille. Il connaît tout cela. Il le sait. Même si je ne puis le voir exposer ma cause devant lui et demander son secours, même si je suis comme au milieu d'un désert et que rien ne semble changer, quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Alléluia. Ça, c'est la prière de l'homme dans la souffrance qui n'a pas perdu espoir. Le désert, oui, le désert. Sachez bien, mes frères, qu'aucun d'entre nous ne pouvons nous vanter de ne jamais traverser un désert. Mais quelle sera notre réaction et notre façon de faire et de vivre et de réagir devant Dieu dans ce désert, dans ce désert dans lequel il a voulu. Il a voulu, oui, je vais le dire, que nous passions, que nous traversions. Le cri de Job a bien souvent été notre cri à nous-mêmes. Nous sommes tous de la même nature et nous voulons avoir contact, nous voulons avoir communion, nous voulons avoir réponse, nous voulons avoir manifestation, nous voulons avoir révélation de ce Dieu dans lequel nous croyons. Nous voulons pouvoir dire, il m'a parlé, j'ai entendu sa voix profonde dans le fond de mon cœur, il m'a conduit, il m'a dirigé, il m'a donné la victoire. Nous voulons voir ces choses d'une façon ou d'une autre avec notre Dieu. Nous ne marchons pas avec un Dieu muet, un Dieu indifférent. Non, il est notre Père. 1 Timothée 6, 16 nous rappelle ceci. Ce Dieu possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui honneur, puissance et gloire éternelle, à ce Dieu puissant. Voilà. Et nous sommes son enfant. As-tu un doute? Il est vrai que quand Satan a tenté Jésus, lorsque Jésus était dans le désert, il lui a bien dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci ou fais cela. Jésus n'a jamais répondu à ce défi de Satan pour lui dire, tu veux savoir si je suis le Fils de Dieu, eh bien je te prouve que non, Jésus n'a rien à prouver et nous n'avons rien à prouver non plus lorsque nous sommes dans le désert et que rien ne semble à marcher comme nous l'aurions voulu. Nous sommes là Et l'ennemi nous dit, si tu étais un enfant de Dieu, tu ne serais pas dans un désert pareil, dans un problème pareil, dans des difficultés pareilles, dans des maladies pareilles. Si tu étais un enfant de Dieu, nous n'avons même pas besoin de lui répondre à ce sujet, car nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Depuis le jour où nous avons cru, c'est une cause acquise par le sang de Golgotha qui a été versé pour nous, et nous avons cru dans l'efficacité de ce sang qui nous a purifiés de nos péchés et qui a fait de nous de la famille de Dieu. Il n'y a rien à prouver en cela. Mais voilà, nous languissons d'entendre Dieu nous parler. Nous languissons de voir une réponse à nos prières. Nous prions, mais il nous semble que nos prières ne sont que des paroles vaines qui tombent dans le vide, qui tombent dans le vide. Et même l'onction que nous avons sentie un certain jour, une certaine fois, une certaine période de temps, lorsque nous prions, semble être partie. Nous sommes là, nous essayons d'additionner mot à mot pour exprimer notre peine ou notre souffrance. Et puis ça sort encore difficilement. Il n'y a plus cette onction que nous avions autrefois. Que se passe-t-il? Nous nous trouvons comme dans un désert, frustrés, car rien ne va comme nous l'espérions. Rien ne va comme nous le désirions. Comme Dieu aurait dû faire à notre égard, selon notre déduction. Méfions-nous de nous-mêmes. Souvent, nous faisons une déduction. Nous pensons que Dieu doit faire d'une certaine façon à notre égard, doit agir d'une certaine manière à notre égard, parce que ça semble logique à notre logique humaine. Mais la logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Voilà. Et nous devons apprendre que nous sommes encore à l'école, quelle que soit notre position, quel que soit notre titre, quelle que soit notre responsabilité que nous avons, laquelle nous a été confiée ou que Dieu nous a confiée, quelle que soit cette position, mes frères, attention, ne soyons pas des têtes dures, mais soyons des hommes et des femmes qui savent s'humilier aux pieds du Maître et pleurer à ses pieds. Il fut un temps où il était tout près de moi. Il fut un temps où, à peine je m'adressais à lui, je le sentais. Il répondait aux prières. Il répondait à mes soupirs même. Mais maintenant, rien. Rien. Je crie alors. Je crie de tout mon cœur, de toute ma force. Ô Dieu, où es-tu? Je voudrais te voir. Je voudrais te sentir. Je voudrais t'expérimenter tout à nouveau, comme je t'ai expérimenté autrefois, à telle époque. Seigneur, comment se fait-il qu'après tant de temps, je sois ainsi, dans une telle position, comme si je commençais à peine à croire? Or, je t'ai servi et j'étais fidèle. Je ne me suis pas égaré sur des voies diverses. Je me suis efforcé d'écouter ta parole. Seigneur, pourquoi es-tu silencieux? On ne le sent pas, on ne peut même pas le voir. On est dans un désert, seul avec ses problèmes, seul, ces problèmes qui vous assaillent. J'ai pensé agir avec justice, j'ai pensé agir avec discernement, j'ai pensé agir comme il aurait fallu que j'agisse. Mais voilà, il semble que tout cela ne sert à rien, ne sert à rien. Et j'aboutis à un chemin sans issue, me semble-t-il. Seigneur, que se passe-t-il? Oui, que se passe-t-il? Mais ne sais-tu pas que l'expérience du désert est encore une école à travers laquelle tu dois passer? Ne sais-tu pas que cette expérience du désert va avoir pour résultat de te purifier et de te purifier comme l'or? Oui, ce Dieu que tu adores, ce Dieu que tu sers, ce Dieu auquel tu as consacré ta vie et auquel tu as répondu oui lorsqu'il t'a appelé, il Il est, selon 1 Timothée 1:17, le roi des siècles, l'immortel, l'invisible, le seul Dieu. C'est ce que nous rappelle Timothée. Seigneur, tu es le roi des siècles, tu es l'immortel, tu es l'invisible, tu es le seul Dieu. À qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, même si je ne t'entends pas, mais même si je ne te vois pas à l'œuvre comme je le désirais, je ne cesserai de te servir. Je ne cesserai de marcher dans ce désert. Je ne cesserai de persévérer et de te prier. Car je sais qu'un jour, alors, je te verrai tel que tu es. Je suis ton enfant. Je suis ta propriété. Je sais que tu m'aimes et que tu nous aimes. Et pourtant, le ciel est fermé. Que se passe-t-il? Frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls dans une telle expérience. D'autres, et beaucoup d'autres, ont passé et passent par ce même chemin de solitude. Peut-être que ce matin, si je demandais qui est dans un désert ce matin, il y aurait des mains qui se lèveraient. Je prie, mais il ne me répond pas. Le chemin que je suis me semble être un chemin de logique, inspiré par le Saint-Esprit, et puis je suis sur ce chemin, mais je suis comme un homme qui ne sait pas où il va. Je suis seul, seul, et je ne vois pas d'issue à ce qui se passe. Vous êtes sur la même route que Job a dû suivre. Vous êtes la même route que Moïse a dû suivre. Job a connu ce désert, ce temps d'épreuve, ce temps de silence pénible. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il était un prince parmi les princes d'Égypte, dans la maison de Pharaon. C'était un noble. Il jouissait de tous les privilèges dus à son rang, jusqu'au jour où il comprit la souffrance de son peuple. Il a compris la souffrance de son peuple, mais Moïse a encore à apprendre. Malgré les connaissances qu'il avait, toutes les connaissances de la science des Égyptiens, une science très avancée, malgré tout l'autorité qu'il possédait, étant devenu même un chef d'armée, il a dû fuir l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qu'il doit apprendre. Et il ne pourra pas les apprendre dans la cour de l'Égypte, une cour païenne. Et nous voyons ce Moïse qui a eu une influence de la part de sa famille dans la connaissance du Dieu d'Israël. Mais une connaissance imparfaite, une influence qui n'est pas encore, qui n'est arrivée à son terme. Il a dû fuir l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a agi par la chair. Il a voulu délivrer son peuple. Il a tué deux Égyptiens. Et à cause de cela, le voilà sous une menace. Sa conscience le lui reproche. Sa conscience le lui reproche. Car tout le monde sait, même parmi les Égyptiens, même à la cour de Pharaon, qu'il est hébreu. Quoi que soit sa position et son titre, le geste qu'il a fait est un geste condamnable. C'est ainsi qu'il dut fuir l'Égypte, et qu'il dut aller dans le désert garder les moutons de Jéthro pendant 40 ans. Ben dis donc, ça c'était une école. Pour certains, l'école est beaucoup plus courte, pour d'autres, beaucoup plus longue. Mais vu la responsabilité qu'aura Moïse plus tard, il s'agit à ce que Moïse apprenne ce qu'il doit apprendre à l'école de Dieu. Et le voici dans le désert. Était-ce sa destinée? garder des moutons, était sa destinée, lui l'homme instruit dans les universités d'Égypte, lui un important chef d'armée de Pharaon. Il est là dans le désert, veillant sur les troupeaux de Jéthro. Il doit apprendre à l'école de Dieu. Et cette école n'a pas un temps défini. Cette école, elle a un temps selon notre capacité d'assimiler les leçons de Dieu à notre égard. Pour certains, cette école est très longue à cause d'eux. Pour d'autres, elle est plus courte. Mais l'expérience du désert est une expérience que connaît, pour ainsi dire, chaque enfant de Dieu. Que dire de Joseph? Joseph, l'enfant chéri de son père, l'enfant bien-aimé de son père, l'enfant préféré de son père, le dernier de la famille, Joseph, qui a eu des rêves troublants, comme quoi un jour tout se prosternerait devant lui. Tout se prosternerait devant lui en tant que chef et autorité. Joseph, qui voici, alors qu'il vient visiter ses frères qui gardent les troupeaux dans la campagne, est jeté injustement dans une citerne par ses frères. Certains parmi ses frères voulaient même le tuer, mais Ruben a dit non. Non, ne versons pas notre propre sang, c'est notre sang. Mettons-le dans une citerne et nous verrons ce que nous allons faire avec lui. À cause de la jalousie, oh la jalousie, c'est une chose épouvantable et terrible. On tue, la jalousie tue et détruit. Et c'est ainsi qu'il fut jeté dans une citerne. Et ses frères disent, où sont ses rêves? Et voici que des marchands madianites passaient avec leurs chameaux. Et l'un d'eux a dit, « Vendons-le comme esclave. » Veuillez m'excuser. « Vendons-le comme esclave à ces marchands madianites qui vont le vendre en Égypte. Et voici, arrivé en Égypte, il est acheté par un homme d'affaires égyptien. Et là, il travaille. » Mais Dieu bénit Joseph. Il bénit tout ce qu'il fait. Et les affaires de Potiphar progressent. Et une véritable bénédiction est sur la maison de Potiphar à cause de Joseph. Mais voici la femme de Potiphar a convoité Joseph. Joseph lui a résisté. Et à cause de cela, il fut accusé injustement par cette femme. Par la femme de son maître, et il fut jeté en prison. Jeté en prison. Mais quel est son avenir, s'il vous plaît? Quel est son avenir? Joseph aurait pu dire, il n'y a plus de prophète ici. Il n'y a plus de la parole de Dieu ici. Il n'y a que d'un culte païen. Il n'y a que toutes sortes d'autres pratiques étrangères. Que me sert-il de servir le Dieu vivant, le Dieu de mon Père? Je vais vivre une vie comme tout le monde, faire ma propre vie, vivre comme les Égyptiens, m'assimiler à eux. Quel avenir ai-je donc? Me voici jeté en prison. Non, Joseph est resté fidèle à sa foi. Et pourtant, quel désert depuis le temps où ses frères l'ont jeté dans la citerne. Jusqu'au moment où il fut élevé à côté de Pharaon, c'était des années de désert. Mais Joseph a résisté à la tentation de la chair, à la tentation d'une vie plus facile, à la tentation des choses de l'Égypte. Et quand il était en prison, il a continué à rendre témoignage du Dieu qu'il sert. Et ce Dieu qu'il sert lui a révélé des rêves qu'ont fait des compagnons de cellules, de prison. Et à cause de cela, il a été élevé du jour au lendemain de la prison à la seconde place du royaume d'Égypte. Voilà, mes frères. Oui, c'est vrai. quelle que soit l'épreuve. L'épreuve est la souffrance à travers laquelle je puis passer. Je sais que j'en sortirai purifié comme l'or. Il ne savait pas quel serait son avenir. A-t-on un avenir quelconque lorsqu'on est en prison, lorsqu'on est rejeté par la société? A-t-on un avenir quelconque lorsque on est esclave et qu'on a été acheté à prix d'argent? Un désert, mais il a suivi l'école de Dieu. Il n'a pas abandonné. Il a continué à servir le Dieu de ses pères dans lequel il avait cru. Voilà. Et Job encore, parlons encore de Job, duquel la Bible dit Job, au chapitre 1er au verset 3, « Cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Il était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. » Job a tout perdu. Il a perdu ses 7000 brebis. Il a perdu ses 3000 chameaux. C'était un homme très riche, considéré. Il a perdu ses 500 paires de bœufs, c'est-à-dire 1000 bœufs. Il a perdu ses 500 ânesses. Il a perdu un très grand nombre de serviteurs et de servantes. Il a perdu ses maisons. Il a perdu des fils et des filles. Et même, il a perdu la santé. Et chose terrible, il a perdu le support et le soutien de sa femme. Que lui dit-elle? À quoi cela te sert-il de servir Dieu? Maudit Dieu et meurs. Voilà la philosophie de sa femme. Je sais qu'aujourd'hui, il y a parmi nous des hommes ou des femmes qui souffrent à cause de l'infidélité de leur compagne ou de leur compagnon, qui souffrent à cause de ceux qu'ils ont aimés et qui les ont abandonnés. Souvenez-vous de Job. Job a tenu ferme. Sa femme l'a abandonné, mais lui n'a pas abandonné Dieu à cause de sa femme. Plus rien que ses yeux pour pleurer. Il n'a même plus la santé. Il est assis dans la cendre, dans la poussière. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Pourquoi, ô Dieu, ce désert? Pourquoi ce désert? Mais Job n'a pas abandonné. Pourquoi veux-tu, toi, abandonner au milieu de tes peines et de tes souffrances? Pourquoi es-tu désespéré, pensant que Dieu t'a laissé de côté, que Dieu préfère un autre plutôt que toi? L'école pour lui était très dure, pour Job. Mais la Bible nous dit qu'il a été rétabli en toutes choses, qu'il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu au double, même des enfants, sa maison et tous ses biens. Dieu le lui a redonné. Dieu n'est pas contre à ce que nous soyons des possesseurs de grands biens, certes non, mais comment gérons-nous ces biens? Et je crois que Job, et ceci se voit à la fin de son livre, il a appris de grandes leçons. Et il ne savait pas à ce moment-là le pourquoi de cette épreuve. C'était un défi de Satan devant Dieu à cause de Job. Touche-le et tu verras, il te maudira en face, avait dit Satan. Job ne le savait pas. Oh non! Enlève-lui tous ses biens. Tu places autour de lui un mur pour le protéger. Enlève ce mur, enlève ses biens, et tu verras, il te maudira en face. Dieu lui a dit, d'accord, enlève-lui tout ce qu'il possède. Mais Job n'a pas abandonné son Dieu. Touche à sa peau, et tu verras. Dieu a dit, d'accord, mais ne touche pas à sa vie. Vous savez que rien ne peut nous arriver sans qu'il y ait un accord de Dieu. Sans qu'il y ait un accord de Dieu. Il reste le maître. Satan peut nous attaquer. Dieu peut permettre à Satan de nous attaquer jusque-là, mais pas plus loin. Il veille sur nous. Nous sommes précieux à ses yeux, car il sait qu'à travers le problème, à travers la maladie, à travers la perte de nos biens, à travers les circonstances négatives que nous allons rencontrer, qui ne sont pas suscitées par Dieu, je le répète, qui ne sont pas suscitées par Dieu, mais qui sont suscitées par Satan, il dit, Dieu reste le maître jusque-là, mais pas plus loin. Et alors, il se glorifie à cause de notre fidélité, parce que nous l'aimons, non pas pour ce qu'il nous donne, non, mais nous l'aimons pour lui-même. Pour lui-même. L'homme ne sait pas ce qui arrivera et qui lui annoncera ce qui arrivera après lui. Ceci se trouve dans Ecclésiaste 10, 14. L'homme ne sait pas ce qui arrivera et qui lui annoncera ce qui arrivera après lui. Nous ne savons pas, mais il y en a un qui sait, c'est celui que nous servons. En plus de tous ceux desquels nous avons le témoignage, il y a Jésus lui-même. Jésus lui-même, le suprême modèle, après avoir reçu le témoignage puissant de Dieu le Père et du Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Dieu vivant, qu'il est le Fils bien-aimé du Père, il a été dans le désert, Jésus, et il a fait face aux puissances des ténèbres, mais il les a vaincus par la parole. Mais ces puissances des ténèbres n'ont cessé de le harceler durant tout son ministère ici-bas sur cette terre. Tout son pèlerinage, il était harcelé par ces puissances des ténèbres. Le chemin du désert est inévitable dans la vie et la marche du chrétien. Pour entrer dans le pays de la promesse, nous voudrions pouvoir l'éviter. Nous voudrions pouvoir le contourner ou trouver un autre chemin plus facile et ne pas passer par le désert. Nous devons comprendre les temps et les saisons et les actions de Dieu. Dieu travaille toujours pour notre bien. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Il cherche toujours notre bien et le meilleur de ce qu'il y a pour nous. Un temps de désert. C'est un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve voulu de Dieu. Afin que nous rejetions tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Il va alors nous tailler comme un jardinier. Tailler, émonder, pour que la plante porte du fruit, et plus de fruits, pour que le fruit soit de meilleure qualité, plus abondant, plus beau, plus parfait, plus fort, plus utile. C'est un temps de préparation pour le futur. Le temps du désert est une préparation pour le temps qui vient, pour le travail et le témoignage à apporter au monde et le service qu'il nous demande, le service que nous avons à remplir dans le temps. Le désert est une école qui est utile et nécessaire dans la vie de tout enfant de Dieu. Une école qui est nécessaire dans la vie de tout enfant de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il est dit, « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » La parole de Dieu appelle ces temps de désert, de souffrance, des moments de légère affliction. Pour nous, cela semble lourd, c'est vrai. Mais devant la gloire à venir, devant les choses glorieuses qui nous attendent, devant l'éternité où nous serons pour toujours, ces choses sont des légères afflictions. Ne regardez pas votre peine comme étant quelque chose d'insurmontable, quelque chose qui va vous écraser, quelque chose que jamais personne ne connaît ou n'a connu, que vous êtes le seul à passer un tel moment. Non, mes frères, chacun d'entre nous, nous avons passé à travers de tels moments. Mais comment avons-nous abordé ces moments? Quelle est notre réaction devant Dieu? Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors persévérez, quel que soit le silence de Dieu, continuez à le servir et à lui parler et à chercher sa face et à pleurer devant lui. Il connaît et il comprend, et vous sortirez purifiés comme l'or. Le désert n'est pas un temps où tout est négatif, mort et stérile pour ceux qui obéissent à Dieu. Le but de l'expérience du désert est très positif. C'est pour notre formation et notre préparation pour une action nouvelle du Saint-Esprit à travers nous. Dieu nous forme pour ce à quoi il nous appelle. Sans s'en rendre compte, quand on entre dans le désert, trop souvent, on ne comprend pas et on agit sans sagesse ni discernement. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 5, il est dit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils. » Si nous comprenons cela, alors nous comprendrons l'éducation que Dieu veut nous donner. Et il veut nous donner cette éducation pour un futur meilleur, pour une tâche plus grande, pour des victoires plus spectaculaires. Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Le désert n'est pas un temps où tout est négatif. Oh non! Pourquoi est-ce que Dieu vous laisse dans cette situation particulière, pénible à supporter? Pourquoi? Il y a des gens qui prolongent leur expérience du désert sans en être conscients, à cause de leur réaction négative. Ces gens expérimenteront des jours difficiles, durs à supporter, des frustrations de tout genre et même des défaites, parce qu'ils ne discernent pas les temps et les saisons où le lieu où le Saint-Esprit a voulu les conduire. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Tel était le cas des enfants d'Israël. Ils n'ont pas compris la raison de ce temps dans le désert. Ils n'ont pas compris la raison de ces 40 ans dans le désert. La conséquence fut que toute cette génération a été jugée par Dieu comme étant indigne d'entrer dans le pays de la promesse. Le but de Dieu, en voulant cette expérience pour son peuple, est de les délivrer de l'esprit d'esclave qu'ils avaient, d'hommes sous le joug qu'ils ont été en Égypte, sous l'autorité de Pharaon. Il voulait les délivrer de cet esprit d'esclave et leur donner une formation spirituelle et les préparer à être des combattants sanctifiés et efficaces. Mais eux n'ont pas compris cela. Non, ils ont pris cela comme étant une punition. Malheureusement, ils ont interprété la volonté de Dieu comme étant une punition. Ils ont murmuré, ils se sont plaints en regardant en arrière. Et ils ont même regretté le temps où ils étaient en Égypte, oubliant l'esclavage sous lequel ils étaient, tout simplement parce qu'en Égypte, ils avaient toute la nourriture qu'ils voulaient. Et à cause de cela, ils étaient prêts à retourner en Égypte. Et combien de fois ils se sont révoltés contre Moïse, même après à le lapider. À cause de cela, ils n'ont pas compris l'expérience du désert. Et toi, as-tu compris l'expérience du désert dans laquelle tu te trouves? Ne commence pas à murmurer contre tes frères ou contre Dieu, pensant, disant qu'il t'a abandonné. Quand le temps est venu de quitter le désert et de conquérir et d'occuper le pays de la promesse, ils ont écouté les rapports négatifs de ceux qui avaient été envoyés par Josué pour explorer le pays. Ils ont écouté la voix de la majorité de ceux, des espions que Josué avait envoyés, qui ont parlé des villes imprenables, selon leurs paroles, des villes fortifiées et des hommes qui occupaient le pays de haute taille. Ils ont écouté tout le négatif qu'ont apporté ces hommes. Alors que Josué et Caleb, eux, au contraire, ils ont parlé de la beauté du pays, de l'abondance de la nourriture que Dieu allait leur donner à travers ce pays et des bénédictions. Ils ont vu le positif, tandis que les autres ont vu le négatif. Ils étaient en une majorité à parler du négatif. Et le peuple a pleuré. Elle a dit à Moïse, « Pourquoi nous as-tu fait traverser ce désert ?» Et ces hommes ont dit, « Voilà, ces hommes, ce sont des géants. » Et nous étions comme des sauterelles à côté d'eux. Israël a préféré, a choisi de croire en l'homme plutôt qu'en Dieu. Plutôt que de croire Dieu, ils se sont vus incapables d'entrer dans le pays de la promesse. Dieu leur a dit alors, d'accord, il en sera comme vous avez cru et comme vous avez voulu. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous devons être instruits par l'exemple d'Israël. Leur ignorance de la nature de Dieu, de son caractère, a fait qu'ils ont agi avec méchanceté et ils ont rejeté ce que Dieu leur avait promis. C'est ainsi qu'un bref voyage dans le désert devint une expérience qui dura toute la vie. Et toute cette génération a dû périr dans le désert. Frères et sœurs, si nous sommes dans une expérience de désert, faisons attention de ne pas rester dans ce désert plus longtemps que Dieu ne le voudrait. Ils n'auraient pas été 40 ans dans le désert si seulement ils avaient cru. Si seulement ils avaient cru dans la promesse de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de vérité et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Seuls Josué et Caleb sont rentrés de l'ancienne génération sortie d'Égypte. Seuls Josué et Caleb. Même Moïse n'est pas rentré à cause d'une infidélité. Dieu lui a montré tout le pays. À partir de la montagne, il lui a montré tout le pays. Aaron de même, mais ils ne sont pas rentrés dans le pays. Seul Josué et Caleb de l'ancienne génération. Frères et sœurs, c'est à toi de sortir de ce désert. C'est à toi de sortir de ce désert selon ton attitude devant Dieu, selon ta marche, selon ta fidélité, selon ta persévérance. Tu veux pleurer? Pleure à ses pieds. Tu veux gémir? Gémis à ses pieds. Mais reste fidèle et crois que tu sortiras purifié comme l'or. Ils feront face, tu feras face alors avec joie à la victoire qu'il te donne. Voilà. Au-delà de l'épreuve, il y a la victoire. Il y a le pays de la promesse. Au-delà de l'épreuve, il y a la bénédiction. Il y a ce que Dieu a dit qu'il te donnerait. Comprenant cela, cette joie, cette paix sera la force. La force dont tu as besoin pour finir le voyage. Combien d'années Dieu va te donner encore? Mais crois-moi, tant que tu vis, il y a une course à accomplir. Puisses-tu finir le voyage? Puisses-tu finir la course? Puisses-tu persévérer? Et puisses-tu croire comme Josué et Caleb et ne pas te laisser influencer par le négatif qui t'entoure? Dans Jacques 1, 4, il est dit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà. Le désert n'est pas une punition. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons car ta parole est la vérité. C'est vrai, Seigneur. Combien de fois nous-mêmes, nous avons passé à travers l'expérience du désert. Certainement, ce n'est pas quelque chose que nous apprécions particulièrement. Et pourtant, Seigneur, c'est un chemin à travers lequel il faut passer pour rentrer dans le pays de la promesse. Seigneur Jésus, aide-nous à persévérer. C'est vrai, Seigneur, il semble que tout est négatif autour de nous. Il semble, Seigneur, que nous n'avons pas d'issue. Nous n'avons pas d'issue, mais Seigneur mon Dieu, l'issue t'appartient. Et c'est toi qui nous donneras l'issue le jour où nous saurons regarder à toi avec espérance et victoire. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Mes frères, peut-être vous passez par le désert. Vous passez par le désert et vous êtes révoltés une fois ou l'autre de ce que vous n'aviez pas la réponse que Dieu voulait vous donner. Ce matin, il vous appelle, elle vous rappelle plutôt que il veille sur vous et il ne vous a pas abandonné. Es-tu dans le désert? Lève la main maintenant. Mets-toi debout là où tu es. Es-tu dans le désert? Es-tu dans une période qui pour toi est incompréhensible? Rien n'avance, rien ne progresse. Il n'y a pas d'issue devant toi. Quant à ta peine, à ta souffrance, des souffrances familiales, des souffrances de relations, des souffrances dans le travail, des souffrances dans le manque de travail, tu cries à Dieu, tu demandes son secours, mais il semble qu'il ne répond pas. Mon frère, ma sœur, confie-toi en lui. Continue ta route. Persévère, car voici, tu sortiras de ce temps de peine et de souffrance purifié. Purifié comme l'or. Purifié. Il est celui qui purifie. Nous avons besoin de comprendre que la chair ne sert de rien. Oh, tu peux avoir fait de bonnes études, tu peux avoir de bonnes connaissances. Tout cela ne peut t'aider. Cela ne peut t'aider que dans le temps présent, dans le monde qui t'entoure, mais non pas dans l'expérience et la marche spirituelle vers le pays de la promesse. Donne ton cœur. Donne ta vie, consacre-toi au Seigneur tout à nouveau et dis, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, quel que soit le prix. Je te suivrai et je ne veux pas t'abandonner. Je te suivrai, quoi que disent les hommes Et quelle que soit, Seigneur, la perte, je te suivrai jusqu'au bout. Merci, Seigneur. C'est un engagement que je prends devant toi maintenant, au nom de Jésus.